Radio Okapi. Jeunes.
Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro du magazine 100% Jeunes qui poursuit son thème sur l'entrepreneuriat des jeunes. Lors du précédent magazine, il était question de sensibiliser et d'encourager les jeunes à l'entrepreneuriat et à la création des entreprises. Aujourd'hui, nous mettons un accent particulier sur la formation et l'accompagnement des jeunes qui veulent entreprendre. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous dans le magazine des jeunes pour les jeunes et avec les jeunes de Radio Okapi. Kakel Mboumb travaille au département du Forum National de la Jeunesse. Il a en charge la politique entrepreneuriale du Forum pour inciter la jeunesse congolaise à entreprendre davantage. Il est également un agripreneur, comprenez par là un entrepreneur dans le secteur agricole, principalement basé dans la production et la vente du maïs ainsi que du soja au sein de la zone Grand Katanga dans le territoire de Kasenga, province du Haut-Katanga. Joint par Thérèse Kankou, il commence par nous dire depuis combien de temps il œuvre dans ce secteur.
Je suis dans le secteur agricole depuis 11 ans maintenant. J'ai débuté dans les années 2009 et également dans la création et gestion des entreprises, c'est depuis environ 6 ans. Donc au fait, au départ, pour moi, l'agriculture, ça a été une activité d'abord de distraction. Je le faisais en période des vacances où parfois je pouvais aller au champ ou visiter des fermes, puisque je me rappelle que mes parents avaient souvent cette culture-là de nous sortir, comme on dit, donc nous amener visiter un peu le monde rural, d'où j'ai eu cette approche, cette attirance du monde rural, voir les animaux, voir la production à la base, comprendre l'intérêt pour le travail de la terre qui nourrit la population. Ça a un peu développé en moi cet amour pour l'agriculture, et après c'est ce qui a fait que je puisse me tourner vers l'agriculture maintenant comme activité principale économique, parce que j'ai aussi compris que ça pouvait effectivement être une source de revenus qui pouvait effectivement me permettre de répondre à certains besoins. Et après aussi dans la gestion et création d'entreprises, c'est après un programme local du Bureau international du travail BIT à Lubumbashi qui se nommait PAJEC, qui visait à développer des compétences entrepreneuriales au sein de la jeunesse congolaise. Lorsqu'on a fini ce programme, on a constaté qu'il y avait encore d'autres défis que les jeunes avaient. Ça constitue autour de la création d'entreprises. On constatait que les prix d'abord étaient exorbitants en ce temps-là, et puis après c'était dur pour beaucoup de jeunes. C'est comme ça qu'on avait organisé une chambre de commerce des jeunes entrepreneurs pour faciliter l'accompagnement en négociant avec l'État congolais les mesures de flexibilité pour réduire les coûts liés à la création d'entreprises pour les jeunes. Et nous le faisons depuis 5 ans déjà.
D'où vous est venue cette idée d'entreprendre ?
Je pense que l'idée d'entreprendre m'est venue en observant beaucoup plus le monde économique de mon pays. J'ai constaté que beaucoup plus la majorité des acteurs économiques majeurs, ce n'étaient pas des Congolais à proprement parler. Je me posais toujours la question lorsque je travaillais dans un groupe minier localement. Je me disais, mais pourquoi, par exemple, la plupart des grandes entreprises minières doivent toujours être entre les mains des autres, et pourquoi on n'a pas assez de Congolais qui ont des entreprises minières, qui ont des grandes firmes, qui ont comme on le voit parfois, par exemple, dans des pays comme au Kenya, en Afrique du Sud, où vous voyez quand même des entrepreneurs locaux qui sont aussi émergents, qui ont de la place dans le secteur économique. Bien sûr, on a toujours besoin des capitaux étrangers. Mais après, c'était ce questionnement de se dire, mais pourquoi il n'y a pas assez de Congolais qui percent, qui font des choses en grandeur. Et ça m'a motivé à me dire qu'il fallait vraiment aussi arriver à faire la différence. Parce que parfois, dans le langage, lorsqu'on était employé, je me rappelle, lorsqu'on discutait avec les collègues, c'était de dire, voilà, nous, les Congolais, incapables de gérer une entreprise, voilà, on se rappelle de la zaïrianisation, quand on a voulu céder les entreprises des autres aux Congolais, aux Zaïrois en cette époque-là, mais quels étaient les résultats? Le Congolais n'a pas la fibre entrepreneuriale, on ne peut pas faire confiance aux Congolais, on ne peut pas, le Congolais ne sait pas gérer, c'est pourquoi il est plus enclin à être utilisé, à être exploité, que d'être lui-même créateur. Et donc, c'est cette optique qui m'avait à un moment pensé que non, il y avait quand même une différence qu'on pouvait faire dans ce sens-là. Et je me sentais moi-même épris d'une double énergie parce qu'en étant employé, je me sentais limité. Mon énergie était utilisée en partie. Et c'est comme ça que je me suis décidé de me lancer dans ce sens-là pour que je puisse aussi arriver à contribuer un tant soit peu à l'éclosion économique de mon pays en créant aussi de l'emploi pour les autres compatriotes.
Pensez-vous que les jeunes sont intéressés par les secteurs agricoles? Si oui, comment et sinon pourquoi?
Je pense que les jeunes, si je dois parler particulièrement les jeunes que je vois au niveau de Grand Katanga, aussi à Kinshasa où je pars de temps à autre, il y a de plus en plus cet éveil, il y a de plus en plus cette conscientisation à s'intéresser à l'agriculture, à comprendre que l'agriculture c'est un secteur créateur de richesses qui peut vraiment nourrir son nom même et qui peut être une profession noble puisque on a beaucoup été dans ces stéréotypes où voilà on croyait où on a, les jeunes ont pensé que l'agriculture c'est un métier pour ceux-là qui ont raté leur vie, qui manquaient quoi faire ou c'est un métier sale où on s'est sali les mains et tout, donc vu comme un travail de basse zone. Mais au fur et à mesure, je crois, avec la numérisation, l'internet, on voit parfois ce qui se passe ailleurs. Les jeunes voient que dans d'autres pays, par exemple, il y a des millionnaires en agriculture. Les jeunes aussi, par rapport au défi de l'emploi, on se dit que voilà, on a des compétences, mais on n'est pas employé. D'où pourquoi ne pas aussi penser à l'agriculture comme un secteur un vecteur d'emploi. Et je crois que de plus en plus, il y a cette vague-là, mais ce n'est pas encore à la hauteur maximale. Mais il y a un vent, il y a un vent qui est là. Il y a de plus en plus d'associations des jeunes. On a des groupes de jeunes qui se créent et qui veulent faire de l'agriculture vraiment une activité économique pérenne, qui veulent vraiment investir dans ça. Il y a même un intérêt pour certains qui n'ont même pas les domaines des compétences techniques, mais qui ont envie d'investir là-dessus. Et donc, de plus en plus, on est conscient qu'on ne doit pas toujours être là, les mains tendues, à attendre que voilà, l'aide vienne de l'extérieur, que la nourriture soit importée. Quand on lit parfois des rapports où on vous dit qu'on dépense près de 3 milliards de dollars chaque année pour importer la nourriture, après, il y a des questions. Vous vous dites, mais pourquoi pas ces 3 milliards peuvent être exploités localement? Et ça fait qu'il y a cette fibre d'intérêt pour l'agriculture que les jeunes se mettent de plus en plus à développer. Et si cela continue ainsi, d'ici 2, 3, 4 ans, on parlera d'une autre jeunesse entrepreneuriale agricole qui est vraiment prospère et qui va inspirer davantage.
Que faut-il faire pour encourager les jeunes à entreprendre dans l'agriculture ?
Je pense qu'il nous faut davantage sensibiliser, beaucoup communiquer sur les réussites, sur ces jeunes qui osent, puisque la mentalité de la jeunesse congolaise nous pousse beaucoup plus vers le modèle qui réussit, c'est-à-dire quand on voit que quand même l'initiative a marché pour certains, on est enclin à vouloir imiter, à se dire que oui, ça peut aussi marcher pour moi. Et donc si de plus en plus on communique beaucoup à travers les médias, à travers les radios, à travers les réseaux sociaux, on fait parler effectivement les initiatives qui marchent, les initiatives qui réussissent, l'impact que créent ces jeunes qui parfois participent à des compétitions nationales, internationales, finissent par avoir des formations, des subventions, des financements pour les permettre de pouvoir avancer dans l'agriculture et créer de l'emploi et réussir aussi et voir comment ces jeunes produisent même de la richesse, sont capables de se prendre en main, en charge à travers l'agriculture, ça va encore donner de l'émulation. Il y aura encore plus de jeunes qui auront un intérêt pour ça. Et donc, je crois juste qu'il faut amplifier davantage de communication par rapport à ça. Et on pourra vraiment arriver à avoir plus de jeunes impliqués dans l'agriculture pour nous amener vraiment à résoudre ce défi alimentaire. Parce que être dans une insécurité alimentaire pour un pays comme la RDC, ça frise le ridicule pour nous, avec tout ce qu'on a comme potentiel, comme richesse. Mais après, ce ne sont pas les autres qui le feront pour nous, c'est nous-mêmes qui devons nous prendre en main. Il faut donc qu'il y ait plus de jeunes, qu'il y ait une masse productive locale compétente, afin qu'elle puisse vraiment s'impliquer pour rendre maintenant ce potentiel réel et nourrir la population.
Comment et par qui êtes-vous accompagné dans ce que vous faites?
Personnellement, j'ai été dans beaucoup de programmes différents. J'ai été dans des programmes tels que l'association IPAR DRDC. C'est une organisation nationale qui encadre les jeunes dans l'agriculture par des formations, par des opportunités qu'elle peut saisir. J'ai aussi intégré la société civile, par exemple, dans le Grand Katanga, dans la province du Haut-Katanga particulièrement. Il y a le programme Village Agricole que le gouvernement provincial a lancé depuis environ 4 à 5 ans. Et il y a une certaine forme de continuité dans ce programme, bien qu'il y a eu des régimes différents ou des gouverneurs différents. Et là, ça permet, par exemple, que, on bénéficie des intrants, semences et engrais pour le maïs particulièrement, et on rembourse juste après récolte, et ça réduit sincèrement le coût de production. Après, il y a aussi des opportunités à l'international, comme par exemple le programme YALI, Young African Leaders Initiative, qui a permis qu'à Nairobi, je bénéficie des partenariats avec des jeunes de l'Afrique centrale et orientale avec qui on est en partenariat jusqu'à aujourd'hui, comprendre un peu de leurs techniques, et aussi ils en apprennent de moi par rapport à ce qu'on a comme potentialité des voies de collaboration. Et aussi un programme qu'on a eu au Ghana l'année dernière, où encore on a découvert, par exemple, j'ai découvert un jeune qui, lui, ne fait que l'ananas, et j'ai vu comment il transforme l'ananas en chips d'ananas, et aujourd'hui, on réfléchit sur comment il peut importer ses ananas, ses chips d'ananas au Congo, vu qu'il y a aussi la zone des libre-échanges d'Afrique. Et donc, c'est plusieurs organisations, plusieurs opportunités comme ça, et c'est comme ça que j'encourage les jeunes à toujours aller à la quête des opportunités. Il y en a plein. Et il faut juste aussi avoir la culture d'intégrer des associations, d'intégrer des réseaux, participer à des activités, des ateliers, des conférences, même quand c'est payant parfois, parce que ça peut vous ouvrir des contacts, ça peut vous ouvrir des relations qui peuvent demain vous amener à d'autres niveaux, où il y a des groupes WhatsApp parfois qui existent, où il y a beaucoup d'opportunités qu'on peut saisir. Et donc c'est ça que je pense que les jeunes peuvent aussi saisir.
À part l'agriculture, quels sont les autres domaines dans lesquels vous entreprenez et gérez?
Moi, je ne suis que dans l'agriculture, ça uniquement qui constitue ma source de revenus principale. Je suis de l'école qui pense que de plus en plus, il est mieux de se spécialiser dans un domaine pour être un expert que de diversifier, être dans beaucoup de choses à la fois. Donc, pour moi, l'agriculture, ce n'est que ça. Je fais uniquement la production d'ailleurs. Avant, je faisais la production, la transformation moi-même, et puis je distribuais. Ça me demandait beaucoup de temps, d'énergie. J'ai juste compris qu'il est impérieux aussi que dans l'agriculture, nous puissions amener les jeunes à se spécialiser et aussi avoir sa part dans la chaîne de valeur agricole. On n'est pas tous appelés à produire, tous appelés à transporter, à transformer, à revendre en ville. On peut juste être dans nos milieux ruraux, par exemple. Certains nous produisons seulement. D'autres jeunes se développent un réseau de distribution pour juste faire les achats, les transports vers les centres de consommation. Et d'autres jeunes aussi se spécialisent dans le stockage des aliments. Après, d'autres peuvent se transformer. C'est ça la chaîne des valeurs agricoles pour que nous évitions toujours de tout faire en même temps. Donc, je suis aussi juste volontaire dans d'autres organisations comme au Forum national de la jeunesse, où voilà, je conseille les jeunes, je les oriente sur la création et la gestion des entreprises. Donc, je ne fais pas autre chose à part ça. Et c'est ça qui, effectivement, me permet de devenir expert dans ce domaine.
Comment évaluez-vous vos activités depuis que vous avez commencé?
Je suis très satisfait des résultats, puisque je me vois il y a quelques années de cela, à 11 ans environ. Je n'étais qu'un simple étudiant et je me disais comment payer mes études et tout ça. Donc l'agriculture a contribué à me permettre aujourd'hui de devenir licencié avec un master en sciences informatiques et option ingénierie des systèmes d'information. Et ce domaine me permet aujourd'hui de me dire comment je dois allier informatique à l'agriculture, parce qu'aujourd'hui l'informatique est une science transversale qui touche tous les domaines. Et donc ça me permet aujourd'hui d'améliorer mon travail. J'ai commencé avec des espaces de terre que je louais. Je n'avais pas mes propres terrains. Aujourd'hui, j'ai plus de 30 hectares de terre que j'ai acquis. Et donc, ce sont des résultats qui montrent que voilà, on n'est pas au niveau zéro, on n'est pas non plus au niveau top où on souhaiterait être, mais quand même, ça montre une certaine avancée. Donc voilà, cela est une source de motivation pour moi-même et pour les autres aussi, puisque des conférences, des occasions quelconques, j'ai eu l'occasion de parler de mon expérience et de montrer aux jeunes que c'est possible de réussir localement si on le veut, c'est possible d'oser l'entrepreneuriat et de trouver des retombées positives. Ce n'est pas toujours un chemin jalonné que des bonnes expériences. C'est un chemin tortueux, difficile, mais en persévérant, mais en s'engageant, mais en acceptant d'être humble et d'apprendre des autres, de se former, de s'auto-former, de recommencer toujours en mieux, on peut arriver à réaliser ses rêves et à être vraiment un vecteur aussi de développement de son pays. Parce qu'on a beaucoup à donner au monde, on a beaucoup à donner à l'Afrique. La RDC est un pays prophétique qui a toute une mission à accomplir et donc nous avons le devoir de l'honorer et de le mettre au diapason des nations méritantes. Merci à Radio Capi pour cette opportunité.
Retrouvez les magazines des Nations Unies désormais tous les dimanches à 8h30 et 19h05 ainsi que tous les mercredis à 14h15 heure de Kinshasa sur Radio Capi, votre radio.
Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Vous suivez le magazine 100% jeunes de Radio Okapi. Nous avons encore le plaisir de retrouver aujourd'hui Jean-Luc Moilou et Nicolas Ndiaye que vous avez suivi la fois dernière. Ils sont respectivement chargés de communication au PADEM PME et senior manager spécialisé dans la gestion de l'Afrique de l'Ouest et centrale chez Deloitte qui est partenaire technique du COPA. Concours de business plan lancé pour les jeunes entrepreneurs sous l'initiative de PADEM PME. Pour la suite de notre entretien, il nous parle de l'importance de l'accompagnement et la formation des jeunes entrepreneurs.
L'invité.
La formation est importante. L'approche du PADEM PME, l'approche de la stratégie nationale de développement des PME, c'est une approche holistique qui est fondée sur un diagnostic très pointu. Nous avons véritablement identifié les véritables le besoin de l'écosystème entrepreneurial ici. Nous avons désappris l'entrepreneuriat depuis longtemps. Au Congo, on vit sur le ponctuel. Ça fait longtemps que nous avons oublié le structurel. Or, on ne naît pas entrepreneur, on le devient, on apprend à entreprendre. Hein? Généralement, nous, de l'Afrique centrale ici, nous avons une certaine culture, c'est peut-être favorisé par l'environnement qui est exubérant chez nous, très généreux, on ne fait pas beaucoup d'efforts pour créer des richesses. Entreprendre, c'est travailler sur la durée, c'est travailler sur une perspective. Et ça s'apprend, nous devons apprendre cela. Plus que un simple octroi d'un financement en termes de cash, le programme apporte des appuis en termes d'acquisition des connaissances. Et c'est très important. Nous insistons sur cela parce que c'est véritablement cette base qui va nous aider à pouvoir asseoir un système entrepreneurial qui va durer et qui va véritablement nous conduire vers les millionnaires que cherche à impulser son Excellence Monsieur le Président de la République.
Exact. Et pour conforter ce que vient de dire Jean-Luc et qui vraiment est très important et correspond à une conviction personnelle chez moi, c'est que aujourd'hui dans nos pays en Afrique, le financement seul ne suffit pas. Et je pense que c'est important d'avoir en tête les objectifs du COPA. Et ses objectifs, c'est vraiment créer des emplois, avoir une croissance qui soit plus inclusive, donc qui puisse bénéficier aux femmes et qui puisse bénéficier aux jeunes. Et pour atteindre ces objectifs, il est évident que le financement seul ne suffit pas, parce que l'entrepreneuriat, mais vous le savez tous mieux que moi, c'est quelque chose de très exigeant, de très difficile. Donc les entrepreneurs ont besoin, au-delà des aspects financiers, d'un accompagnement en termes de formation, de coaching. Et c'est vraiment ce que notre consortium, sous le leadership, bien entendu, de l'UCP, entend mettre en œuvre avec l'ensemble de l'écosystème entrepreneurial ici au Congo.
Alors, vous lancez un appel à participation hein, pour recruter les candidats en disant, voilà, déposez vos plans d'affaires. Est-ce que c'est pas un peu dangereux par rapport, justement, en termes de droits d'auteur, en quelque sorte, parce que ils peuvent se faire piquer des idées.
Non, tel que le système est conçu, oui. C'est un système...
Comment vous le sécurisez ?
Le système est sécurisé parce que nous avons mis en place un dispositif très moderne, mais également un dispositif qui va permettre un traitement dans la transparence. Nous avons également un code d'éthique très contraignant, mm-hmm. et surtout avec notre partenaire, la Banque mondiale, qui y veille, ainsi que le gouvernement.
Et en termes de confidentialité,
non-divulgation et tout le reste. Mm. Et je peux rassurer déjà les futurs soumissionnaires, mm-hmm. Qu'il existe un mécanisme de gestion des plaintes, mm-hmm. Qui permet et qui explique à tout partenaire du projet comment procéder lorsqu'il se sent lésé ou lorsqu'on lui a volé quelque chose ou lorsqu'il a été abusé d'une manière ou d'une autre. Mm-hmm. Ils peuvent trouver ce mécanisme-là sur le site web principal du projet qui est www.padempeme.cd.
Okay.
Donc, il n'y a pas de place à des abus.
Vous les rassurez.
Il n'y a aucune raison de pouvoir s'inquiéter en disant qu'on va leur piquer leurs idées. Non, non. Nicolas peut-être nous expliquer sur le plan technique. Mm-hmm. Hein. Moi, je vous parle sur le plan
organisationnel,
oui, sur le plan de la gestion, oui. au niveau managérial. Mm-hmm. Mais sur le plan technique, tel que les choses ont été organisées, il n'y a pas de place pour quelqu'un de pouvoir placer sa main là-dedans pour manipuler le système dans un sens comme dans un autre.
Là-dessus, je voulais avoir un éclaircissement. Quand vous dites plan d'affaires, c'est quoi exactement ? C'est y compris la partie conceptuelle du projet, l'organisation, la mise en place, ainsi que le dossier financier ou uniquement le dossier financier ? Nicolas.
Alors, c'est plus global, effectivement. Ça inclut la présentation de l'entreprise, la présentation de son activité, de sa valeur ajoutée, de son marché, pour qu'on comprenne bien en quoi cette entreprise a une existence réelle déjà, mmh. et a un potentiel de croissance, de création d'emplois. Mmh. Et en plus de ces aspects généraux, il y a effectivement des aspects financiers qui sont plus spécifiques, mmh. Pour nous permettre de comprendre le business model, mais aussi le plan de financement qui est associé au projet. Mmh. Je donne un exemple. Quand on est en chef de PME, qu'on veut investir dans le renouvellement de son appareil productif pour produire davantage, pour transformer des choses, évidemment, et qu'on demande par exemple une subvention de 100 000 dollars, c'est une somme conséquente et pour laquelle il nous est nécessaire qu'on puisse justifier d'un plan de financement qui soit solide et qu'on puisse apprécier ce plan de financement dans le cadre du processus de sélection qui, encore une fois, sera vraiment transparent. C'est notre engagement.
Alors, pour être concret, hein, par rapport au concours, comment ça va se passer concrètement? Donc, les participants vont postuler sur une plateforme web. Et qu'est-ce qu'ils donnent comme élément à part le plan d'affaires? Et est-ce qu'il y a un lien où ils doivent juste mettre le nom, le poste-nom et envoyer le dossier, c'est tout? Ou et puis on les recontacte, est-ce qu'il y a une information qui leur est envoyée pour continuer de... Comment ça se passe de manière plus concrète à partir de la plateforme?
Très concrètement, il y a une plateforme en ligne qui est déjà accessible,
oui.
Qui s'appelle www.copa-padempme.org, mm-hmm. qui est déjà active. Donc nos auditeurs peuvent se connecter là-dessus. Sur cette plateforme, on va demander aux candidats de s'enregistrer. C'est très simple. Mm-hmm. Il suffit d'indiquer une adresse mail et un mot de passe, mm-hmm. et on a un compte qui est créé. Mm-hmm. À partir de là, on a accès à un certain nombre d'informations sur les critères d'éligibilité, le calendrier de chaque cohorte de PME. Et en plus de cela, en fonction des dates d'ouverture des candidatures, donc très concrètement pour les PME à partir du 15 octobre, il y aura un formulaire de candidature.
Ah, pour l'instant, le formulaire n'est pas disponible.
Alors, le formulaire, il est sur le site, mais il n'est pas accessible pour candidater.
D'accord.
Le site, il est accessible aujourd'hui pour avoir les informations sur le
générales.
Projet,
okay.
les critères d'éligibilité, parce que c'est un aspect très important.
Tout à fait.
Et à partir du 15 octobre, pour les PME, le formulaire de candidature en ligne sera disponible.
Et c'est là qu'il faudra postuler.
Voilà, c'est là où il faudra remplir des informations sur l'entreprise, oui. sur le projet, et mettre en pièce jointe un certain nombre de pièces justificatives. On parlait tout à l'heure de transparence et d'objectivité. C'est important qu'on puisse avoir des documents justificatifs pour pouvoir mener ce travail convenablement. Mmh. Et après, il suffit juste de soumettre et les candidats vont recevoir une notification leur disant que leur candidature a été bien soumise et bien enregistrée. Et en fonction des étapes de sélection, les candidats qui passent chaque étape recevront une notification par mail pour les inviter à l'étape suivante. Alors, ce qui est important, encore une fois, j'insiste sur la plateforme en ligne parce que sa vocation, c'est vraiment d'assurer cette transparence dans les informations. Mmh. Aujourd'hui, sur cette plateforme en ligne, tout le monde a la possibilité de télécharger ce qu'on a appelé les termes de référence de l'appel à candidature, mmh. qui est un document synthétique qui présente l'organisation du concours ainsi que les critères d'éligibilité et les critères de sélection.
D'accord.
Donc tout cela est déjà disponible sur la plateforme. Pour répondre à l'autre partie de votre question, on a dit qu'on commençait par la première cohorte de PME. Mmh. Donc ça, c'est le premier appel à candidature. À partir du 15 octobre, les PME pourront soumettre leur candidature. Mmh. Et l'objectif pour nous, c'est à la fin du mois de décembre de pouvoir sélectionner les 250 lauréats.
Okay.
Pour qu'à partir du mois de janvier 2021, ces lauréats puissent recevoir d'une part leur financement, mais surtout, comme on le disait tout à l'heure, en plan d'accompagnement,
du coaching
sur 6 mois.
Mmh. Donc, dès janvier, ils ont leur financement et c'est du 100% cash ou avec un peu de matériel aussi.
C'est essentiellement de la subvention financière.
Financière, oui. Très bien. Et il y a une particularité, avant qu'on ne puisse mettre un terme à cette interview, il y a aussi une particularité spécifique dans la démarche du PADEM PME, c'est aussi cette ouverture vers les femmes.
Effectivement, ce projet, c'est un projet qui s'adresse de manière particulière mmh. aux catégories, entre guillemets, qu'on appelle vulnérables. Mmh. Ce qui est recherché, c'est également soutenir la résilience de ces catégories qui sont principalement composées des jeunes et des femmes.
D'accord.
De manière tout à fait discriminatoire et positivement, bien sûr, de réserver 40% des bénéfices du projet de manière spécifique aux femmes. C'est-à-dire les entreprises qui sont conduites ou dirigées par des femmes ou des entreprises dont elles détiennent la propriété mmh. seront privilégiées. Les secteurs sont mmh. bien précisés.
D'accord.
Hein, nous sommes dans l'agroalimentaire ou l'agrotransformation. Mmh. Nous sommes dans l'industrie légère ou la petite industrie. Et nous sommes également dans les services à valeur ajoutée. C'est ça qui va nous aider à créer des emplois.
Mais surtout de se constituer en filière également.
Voilà. Exactement. Chez nous, en Afrique, on dit, lorsque tu veux aller vite, tu peux aller seul. Mmh. Mais quand tu veux aller plus loin, tu dois être bien accompagné. Mmh. C'est très important que nous apprenions, nous en Afrique ici, surtout en Afrique centrale, et particulièrement en République démocratique du Congo, nous devons apprendre à travailler en tant que groupe. Nous devons apprendre à travailler comme un groupe organisé. C'est pour ça qu'on a prévu dans le cadre de ce projet cette mise en relation, cette mise en réseau mmh. des différents opérateurs. L'union fait la force, disaient certains. Et aujourd'hui, nous avons également des partenaires techniques comme Deloitte, Kivu Entrepreneur et IEF Entrepreneuriat, ainsi que d'autres. Hein. Le PADEM PME, ce n'est pas que le COPA. C'est un programme global qui embrasse presque l'ensemble des problématiques du secteur de l'entrepreneuriat. Mmh. Et je suis très confiant dans l'avenir de ce projet et dans l'avenir de notre jeunesse, de notre société. Nous allons effectivement vers un futur très radieux.
Et c'est la fin de ce 100% jeunes, le magazine des jeunes pour les jeunes avec les jeunes de Radio Okapi. Merci à Thérèse Kongou qui a participé et supervisé cette nouvelle production. La prise de son était assurée par Polydor Basunga. Je suis Baye Chamala. Fixons-nous un nouveau rendez-vous pour la semaine prochaine. Même heure, même radio. Ciao, ciao.